Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Borumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'ounesse sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur onde courte, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir et bonjour chers amis auditeurs, selon l'heure que vous nous suivez. Ravi de vous retrouver. En ce mercredi 23 décembre 2020, j'ai le plaisir de vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Un navire US dans le golfe Persique pour protéger le 5e flotte des foudres de l'axe de la résistance, le pari est déjà perdu. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission, restez avec nous. Au sommaire de ce journal, Trump n'aura pas un meilleur sort que Saddam, a averti ce matin le président Rouhani. Accord nucléaire, l'Iran rejette toute renégociation du PGAC. Et puis un attentat à la bombe a visé une voiture de police à la périphérie de la capitale afghane, Kaboul. C'était les principaux titres que nous allons développer tout de suite dans ce journal. Restez avec nous. Trump n'aura pas un meilleur sort que Saddam, a averti ce matin le président Rouhani. Deux individus fous ont imposé la guerre au peuple iranien. Saddam nous a imposé une guerre militaire et Trump nous a imposé une guerre économique. Nous avons vaincu Saddam et Trump n'aura pas un meilleur sort que Saddam, a déclaré le président Rouhani, faisant allusion aux récentes déclarations du leader de la révolution islamique concernant l'impératif de la lutte contre les sanctions américaines. Le président Rouhani a déclaré « Le gouvernement, d'un côté, fera de son mieux pour réduire les effets de la guerre économique et de l'autre côté, essaiera de mettre fin aux sanctions oppressives. » Le président iranien affirme que son homologue américain n'a pas réussi à atteindre ses objectifs grâce à une guerre économique menée contre la République islamique d'Iran et le peuple iranien. Les forces iraniennes sont capables de traquer l'USS Georgia dans le détroit d'Ormuz avec un filet de pêche, déclaration du vice-président du Parlement iranien. Amir Hossein Ghazizadeh Hashemi, le premier vice-président du Parlement iranien, s'est exprimé sur les récents événements dans le golfe Persique, à savoir la traversée du détroit d'Ormuz par le sous-marin nucléaire américain USS Georgia, celle du sous-marin israélien dans le canal de Suez et leur entrée dans les eaux du golfe Persique. Les forces iraniennes sont capables de traquer l'USS Georgia dans le détroit d'Ormuz avec un filet de pêche. L'Iran n'est nullement préoccupé par les récents agissements militaires des États-Unis dans les eaux du golfe Persique, a-t-il déclaré. Ce n'est pas la première fois que de tels mouvements se produisent. Le golfe Persique a toujours été marqué par la présence étrangère. La Grande-Bretagne et les États-Unis y ont établi des bases. Et partout où ces deux pays sont présents, cela signifie qu'Israël s'est infiltré. Recevant son homologue afghan, Shamkhani souligne la nécessité de la coopération Téhéran-Kaboul pour éradiquer Daesh. Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale de la République islamique d'Iran, Ali Shamkhani, recevant ce mardi 22 décembre, son homologue afghan à Téhéran a souligné la nécessité de créer les infrastructures nécessaires visant à développer les relations bilatérales entre Téhéran et Kaboul. Il a réitéré sur le ferme soutien de l'Iran au gouvernement légitime de l'Afghanistan et la nécessité d'une coopération bilatérale pour éradiquer le groupe terroriste Daesh. Lors de la rencontre, axée sur le processus de la paix inter-afghan et le rôle de l'Iran, l'accent a été mis sur l'impératif du retrait des États-Unis de la région et la place privilégiée qu'occupe l'Afghanistan en tant que pays ami, frère et voisin pour l'Iran, insiste l'amiral Ali Shamkhani. Le ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a également rencontré mardi le conseiller afghan à la sécurité nationale, Hamdullah Moheb. Pour nous, une solution politique globale avec la présence de tous les groupes afghans demeure la meilleure garantie pour une paix durable dans ce pays, a conclu le haut diplomate iranien. Pour sa part, le conseiller à la sécurité nationale afghane a brossé un tableau détaillé sur les dernières évolutions liées au pourparlers de paix inter-afghan avant de remercier la République islamique d'Iran pour son soutien au gouvernement et au peuple afghan. Accord nucléaire, l'Iran rejette, je vous le disais en titre, toute renégociation du PGAC. Pour l'ambassadeur et le représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies, Majid Tartravanchi, la convocation d'une nouvelle réunion sur la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU est un autre signe de la défaite américaine. Toute proposition d'amendement, de renégociation ou de prolongation est contraire à la résolution 2231 du Conseil de sécurité qui endosse le plan global d'action commun sur le nucléaire iranien de 2015, PGAC, est certainement inacceptable pour l'Iran, a insisté le diplomate. Majid Tartravanchi s'attarde sur la question lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU le mardi 22 décembre. Le diplomate a déclaré qu'au cours des 4 dernières années, qui marquent le mandat de Donald Trump, les États-Unis avaient imposé plus de 1500 sanctions à l'Iran visant tous les secteurs de l'économie iranienne et détruisant presque tous les avantages escomptés économiques attendus du plan global d'action commun sur le nucléaire. De telles sanctions, qui peuvent être même intensifiées jusqu'à la dernière minute de l'actuelle administration sortante américaine, sont en effet une guerre à part entière dans laquelle les moyens économiques ont remplacé les armes, a-t-il dénoncé. Les États-Unis prétendent que les articles humanitaires sont exemptés de sanctions, ce qui est complètement faux. Sachez également que la Russie qualifie d'échec les tentatives anti-iraniennes US. Le représentant adjoint de la Russie auprès des Nations Unies a qualifié d'échec l'hystérie anti-iranienne de Washington, notant que la réduction des engagements nucléaires par l'Iran en réponse au retrait unilatéral américain de l'accord nucléaire est le résultat direct de la politique contre-productive des États-Unis. Dmitri Polyansky, s'exprimant le mardi 22 décembre lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la non-prolifération des armes nucléaires et la résolution 2231 qui endosse l'accord multilatéral sur le nucléaire iranien, selon son acronyme anglais GCPOA, a évoqué les efforts des États-Unis usés à abuser depuis juin visant à punir à tout prix l'Iran. Il a ajouté « Ces actions étaient complètement imprudentes et basées sur aucune rationalité ». Ils ont tenté de persuader les membres du Conseil de sécurité d'adopter une résolution contre l'Iran et cela vainement. Autre thème, un attentat à la bombe a visé une voiture de police à la périphérie de la capitale afghane Kaboul. Je vous le disais en titre, les médias locaux affirment qu'un policier a été tué et que deux autres ont été blessés après que leur voiture eut été touchée par une bombe en bordure de route. Rien n'a filtré sur les détails. Aucun groupe n'a revendiqué jusqu'à présent l'attaque. Les violences se sont intensifiées en Afghanistan ces derniers mois, en particulier dans la capitale Kaboul. Un décompte montre que plus de 130 personnes ont été tuées dans la ville au cours des deux derniers mois. Cette poussée survient alors que le gouvernement est en pourparlers avec les talibans pour un accord de paix. Les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions à la Syrie visant sa banque centrale et plusieurs autres entités. Les principaux conseillers du président Bachar Assad ainsi que son épouse font partie des personnes inscrites sur la liste noire. Les États-Unis avaient déjà imposé des sanctions à Assad et à son épouse Asma en juin. Washington accuse Asma d'utiliser ses œuvres caritatives et ses organisations de la société civile pour consolider le pouvoir politique et économique de Damas. Les États-Unis ont jusqu'à présent imposé plusieurs séries de sanctions contre le gouvernement syrien, l'accusant de servir contre son peuple. Damas a rejeté l'accusation. Il dit que les mesures américaines visent les Syriens ordinaires et entravent le processus de reconstruction en cours après des années de conflits en Syrie. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution exhortant Israël à cesser de démolir et de confisquer les maisons palestiniennes dans les territoires occupés. La résolution, entre autres, exhorte Israël à cesser de détruire les infrastructures civiles et vitales dans les territoires occupés. L'Assemblée générale a adopté la mesure à la suite d'un rapport de l'une de ses commissions sur la situation dans ces territoires. Les groupes de défense des droits de l'homme disent qu'un grand nombre de Palestiniens ont été déplacés cette année à la suite des démolitions israéliennes systématiques. Selon les allégations avancées par le régime usurpateur, ce dernier détruit les structures qui n'ont pas de permis de construire. Les Palestiniens rejettent cela. Pour eux, les démolitions visent à étendre les colonies israéliennes qui sont illégales au regard du droit international. Autre thème, c'est le non tunisien à la normalisation avec Israël. La Tunisie n'est pas intéressée par l'établissement de relations diplomatiques avec Israël à la suite des informations selon lesquelles elle pourrait normaliser ses relations avec Tel Aviv. Un communiqué du ministère tunisien des Affaires étrangères fustige la poursuite par Tel Aviv des politiques qui sapent les légitimes résolutions internationales. Le ministère tunisien des Affaires étrangères a déclaré que la position du pays ne serait pas affectée par les dernières révolutions internationales. Ces remarques répondent au rapport des médias américains selon lesquels la Tunisie pourrait être la prochaine nation arabe à normaliser ses relations avec Tel Aviv. Direction l'Europe avec la France qui a assoupli son interdiction temporaire de voyager en Grande-Bretagne imposée après l'identification d'une nouvelle variante du coronavirus dans le pays européen. La frontière est réouverte pour ceux qui veulent rejoindre la France depuis l'Angleterre, seule condition pour les Français résidant à Londres, les touristes et les routiers en transit se soumettre à un test dépistage Covid-19. Les Britanniques restent interdits d'entrer en France. Dans sa déclaration, le bureau a ajouté que le test doit être d'un type capable de détecter la nouvelle variante. Jusqu'à présent, plus de 40 pays à travers le monde ont bloqué des vols ou des liaisons de voyage avec l'Angleterre. Enfin, le président élu américain Joe Biden a critiqué le président finissant Donald Trump pour avoir minimisé la gravité d'une récente cyberattaque à grande échelle contre le gouvernement américain. Biden a accusé Trump d'avoir abandonné son travail pour protéger les États-Unis, affirmant que l'attaque ne pouvait pas rester sans réponse. La semaine dernière, l'agence américaine de cybersécurité a déclaré que des pirates informatiques avaient accédé aux systèmes informatiques de dizaines d'organisations et d'agences fédérales. Le secrétaire d'État Mike Pompeo et d'autres responsables ont imputé le piratage à la Russie, mais le président Trump a pointé du doigt la Chine. Il a blâmé les médias pour avoir fait ce qu'il appelle le tapage médiatique contre la Russie. Pékin et Moscou ont nié toutes deux toute implication. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Un navire nucléaire US dans le Golfe Persique pour protéger la 5e flotte des foudres de l'axe de la résistance, le pari est déjà perdu. À peine quelques heures après l'hollywoodien Flash Flag que Mackenzie a signé depuis sa cachette en Irak, et ce au terme d'une frappe au missile amie contre l'ambassade base US dans la zone verte, les sources américaines annoncent la traversée du détroit d'Ormuz d'un sous-marin à propulsion nucléaire, USS Georgia. Ce flash flag s'est soldé à nouveau par un tonitruant échec, comme ce fut le cas pour le Patriot, puisque les batteries de Seram américaines ont tiré des milliers d'obus pour n'intercepter que 4 missiles. Et encore, il s'agissait des missiles AMI, parfaitement calibrés, pour les besoins du spectacle, qui ont fini par exploser et provoquer des impacts sur des voitures et des bâtiments aux alentours, comme le montrent les images. L'USS Georgian se déploierait dans le Golfe Persique et en mer d'Oman en soutien aux alliés des États-Unis dans la région et pour assurer la sécurité du trafic maritime. Or, ce second acte du scénario de duo finissant, Trump Pompeo, qui tente de sauver face à l'axe de la résistance ce qui reste l'Empire US au Moyen-Orient, avant que Biden ne vienne à la Maison-Blanche en chantant le requiem final, a quelque chose de trop bancal. Lundi 21 décembre, dans la soirée, la porte-parole de la 5e flotte à Bahreïn, où l'Amérique vient, dans un excès de crainte et d'angoisse, de blacklister un groupe pro-résistance bahreïni, Saraya al-Mortar, sans comprendre que ce groupe, créé en 2011, n'est que la pointe de l'iceberg et que cet iceberg n'a pas attendu 2010 pour prévoir comment agir contre les marines US planquées au QG de la 5e flotte, a cherché à faire sensation en médiatisant l'arrivée de l'USS Georgia dans le Golfe Persique. Maintenant qu'elle se trouve dans le Golfe Persique, les diverses capacités de l'USS Georgia donnent à l'US Navy un outil puissant pour mener des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance le long de la côte iranienne, ainsi que dans le reste de la masse d'eau, tout en restant largement caché de l'adversaire potentiel. Ceci est extrêmement bénéfique compte tenu de la nature contraignante de cette masse d'eau qui présente par nature des risques plus importants pour les navires opérant en surface. Les forces iraniennes, y compris les missiles de croisière et balistiques antinavires basés à terre, les vedettes rapides, les sous-marins et les mines navales, entre autres capacités, présentent de menaces très réelles pour les navires de guerre américains et autres dans la région. C'est le nœud de fusion directe du renseignement sous-marin et qui devra, en cas de guerre, servir de centre de commandement naval. Et dire que la 5e flotte US à Bahreïn, avec tout son armada, à lui et à ses acolytes, attendait l'USS Georgia pour que ses opérations aéronavales puissent trouver un début d'interconnectivité, un début de cohésion face à l'Iran. Mais on lui en tient pas trop de rigueur. Les Yankees savent bien à quoi ressemble un clash avec l'Iran.
Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne, Téhéran. Restez avec nous, je vous prie. Alors, malgré la crise sanitaire en France, les Gilets jaunes sont descendus dans les rues pour crier leur colère contre le gouvernement, scandant des slogans anti-Macron exigeant un mode de vie plus équitable pour les Français. Alors, s'ajoutant à cela, d'autres manifestants viennent joindre les Gilets jaunes qui défendent les lois les plus fondamentales dans les rues de Paris. Et en effet, depuis le début, les Gilets jaunes sont implacables sur tous les fronts et malgré toutes les interdictions et malgré la crise sanitaire. Nous allons essayer de voir plus clair à l'aide des experts de questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure. Restez avec nous car je vous invite donc de regarder un reportage et on sera avec vous juste après. Vous restez avec nous.
Le 19 décembre 2020, la France a encore connu une journée de mobilisation contre la loi sécurité globale avec la présence des Gilets jaunes. La flamme des Gilets jaunes ne s'est jamais éteinte, même si elle a pu vaciller à certains moments, compte tenu des circonstances, des difficultés d'action. Plus de 2 ans après le début du mouvement des Gilets jaunes, leurs revendications, parmi lesquelles la justice fiscale et les libertés, sont toujours autant d'actualité. Rien n'a changé par rapport à novembre 2018. 2020, c'est 2018 en pire. Dans la continuité d'une mobilisation qui dure depuis plusieurs semaines, de nombreux rassemblements ont eu lieu un peu partout en France contre la loi sécurité globale. Des Gilets jaunes se sont mobilisés à cette occasion, portant pour beaucoup des parapluies multicolores en hommage à une manifestante âgée d'une cinquantaine d'années, Moon, qui a été mise en examen le 15 décembre, soupçonnée par la justice d'être une meneuse de Black Blocs. Mobilisés depuis 2 ans, encouragés par les manifestations anti-loi sécurité, les Gilets jaunes se sont remis en mouvement. Ils étaient près de 200 venus de plusieurs villes de France pour revendiquer plus de justice sociale et fiscale.
Voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités. En commençant par M. Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse. M. Dortiguier, bonjour.
Bonjour monsieur, bonjour à vos auditeurs et un grand bonjour à M. Michel.
Justement, un grand bonjour à M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
Un grand bonjour à vous et à toute votre équipe. Un grand bonjour au professeur Dortiguier que j'ai toujours plaisir à retrouver. Et ensemble, nous faisons avancer la justice dans ce monde d'injustice.
Monsieur Luc Michel et Monsieur Dortiguier, vous êtes amis. J'espère que ça ne va pas vous empêcher de vous contredire, car il s'agit d'un débat sur les gilets jaunes qui sont descendus dans les rues à nouveau pour exprimer leur colère contre le gouvernement. Mais le gouvernement ne veut rien savoir. Monsieur Dortiguier.
Non, en effet, le gouvernement adopte une attitude aveugle, car il estime que c'est la seule façon pour lui, sous couvert surtout de lutte sanitaire, voyez, d'éteindre toute contestation et surtout que des personnes, que les Français disons, n'expriment pas ouvertement leur connaissance personnelle, si je puis dire, des ruines, des suicides, par exemple, que j'en connais quelques-uns, suicides économiques, voyez, de fermeture d'entreprises, et peut-on dire, si on prend un terme de classe sociale, blessure profonde, pour ne pas dire autre chose, infligée à la classe moyenne. Je crois que le gouvernement sait qu'il aura affaire à des résistances, à des soulèvements, à des, peut-on dire, des manifestations, presque des formes violentes même. Mais il choisit pour l'instant, en profitant de ce qu'il appelle, de ce qu'on appelle la catastrophe sanitaire, c'est ce que M. Jean Castex a dit hier soir à l'Assemblée nationale, à faire, disons, à maintenir les populations, disons, dans un certain isolement, à isoler les gens les uns des autres, vous voyez, c'est-à-dire faire des couvre-feux, même des organiser des sortes de quarantaine, voyez.
Monsieur Dortiguier,
faire peser une menace. Il y a, disons, une pression, disons le mot psychologique, exercée par le gouvernement à l'occasion, justement, de cette affaire de pandémie.
Monsieur Dortiguier,
beaucoup de gens pensaient, je terminerai là-dessus, que ceci allait occulter, diminuer, disons, l'importance sociale des gilets jaunes. Il n'en a aucunement été. Au contraire, les gens s'aperçoivent d'eux-mêmes, même si ça ne monte pas, disons, si ce n'est pas encore très très visible, de l'extérieur, à l'étranger par exemple, savent très bien que nous subissons maintenant, nous croulons, disons, sous des catastrophes, des pertes d'emplois, des gens qui sont, surtout dans le domaine commercial, le domaine des petites entreprises. Je connais un suicide, par exemple, d'un homme qui avait une grosse entreprise, pour des suicides économiques, n'est-ce pas, pour des raisons. Et ceci, bien sûr, le gouvernement essaie de temporiser, si je puis dire, par des mesures qui ne sont pas des... Parce qu'il, à mon avis, il est incapable de redresser la situation. Nous sommes allés beaucoup trop loin, nous avons une ruine trop grande du point de vue financier, voyez-vous. Et il n'ose pas en réalité, c'est-à-dire qu'il ne peut rien dire. Et je crois que les milieux financiers qui nous dominent, voyez-vous, seraient même prêts à organiser une sorte de manifestation, voyez-vous, artificielle, pour donner une apparence de changement de gouvernement, tout en continuant la même politique répressive.
Merci, M. Dortiguier. M. Luc Michel, depuis Bruxelles. Donc, malgré toutes les restrictions exigées par le gouvernement, malgré cela, les Gilets jaunes ont su rester implacables et sont descendus dans les rues.
Écoutez, la situation, elle est générale, en fait, dans tout l'Occident. Mais en particulier en France, il y avait ce mouvement des Gilets jaunes qu'on a essayé d'étouffer pendant plus d'un an par des moyens qui sont la division, les complots politiques. Notamment, déjà, on était, avant de les avoir lancés contre les manifestants, contre les sanctions du Covid, on avait laissé les Black Blocs qui sont finalement des alliés objectifs de l'État faire des destructions à Paris. En Belgique, il y a eu un mouvement des Gilets jaunes. On l'a étouffé d'une autre manière. Il a été matraqué judiciairement, arrestation, condamnation, amende, dès les premiers jours où il a émergé. L'année ici, elle a servi, pensait Macron, à étouffer la contestation sociale. C'était en fait comme une casserole à pression, le couvercle était sur la marmite, mais la vapeur continuait à monter. Il y a maintenant ces gilets jaunes qui... Et il n'y a pas de raison qu'ils ne soient plus là, puisqu'ils ont manifesté contre l'appauvrissement de la société et les inégalités, et celles-ci sont encore renforcées par le Covid, mais ils sont rejoints par d'autres catégories sociales, par d'autres classes sociales. Il faut enfin dire encore quelque chose qui est important, c'est que dans tout l'Occident, on a vu émerger une restriction des libertés publiques, des législations d'exception. On a interdit ce qui n'était pas pensable, par exemple le confinement à domicile, par exemple les interdictions de voyager, par exemple les amendes pour les déplacements. En Belgique, il y a un grand parti, c'était le parti du gouvernement il y a un an, le grand parti nationaliste flamand, la NVA, il a été renversé et remplacé par un gouvernement libéral minoritaire grâce à la crise du Covid, où on a manipulé l'opinion et les partis, et ils ont créé une expression, ils ont dit, donc ce sont des gens du système, ce n'est pas moi qui ai inventé ça, ils ont dit nous sommes face au corona-dictature. Quand vous étudiez dans tout l'Occident, il y a une série de régimes qui a viré dans ces corona-dictatures. Il y a en particulier le régime israélien de Netanyahou. Il y a eu dans certains de ces aspects Donald Trump. Il y a eu dans certains de ces aspects le président hongrois Orban. Il y a eu les gouvernements belges, français, britanniques, etc. Et le résultat de tout ça, c'est que, comme l'a dit le professeur Dortiguier, ces gens, ces gouvernements qui ont été incapables, qui sont une bande de nullards de la politique, quand vous voyez le Premier ministre Castex, vous assistez à un clown de la politique. Pour ceux qui sont de ma génération, il y avait un groupe d'imitateurs qu'on appelait les inconnus, mais on a l'impression, quand on voit Castex, d'assister en direct à un sketch des inconnus. Ils se trompent, ils font des erreurs, ils changent d'opinion de jour après jour. Le désaveu de la classe politique, il s'est accompagné du désaveu de la médecine, du désaveu. Et la réponse à tous ces gens, ça a été le renforcement de ce qu'on peut appeler la dictature. Il y a actuellement un mouvement d'étouffement de toutes les contestations. On a appris aujourd'hui que le professeur Raoult était poursuivi, le professeur Perron, tous les dissidents de la médecine. Moi, je ne suis pas un fan de Raoult parce qu'il a des liens avec notamment Sanofi, mais Raoult a dit un certain nombre de choses vraies sur l'effondrement de la médecine, sur la manipulation, sur l'incapacité des gouvernements. Et on essaye de faire taire tout cela par une répression en justice. C'est inacceptable et ça ne conduira qu'à renforcer une explosion sociale. C'est là pourquoi, vous comprenez, nous en avons débattu il y a quelques jours sur vos antennes. On posait la question, pourquoi est-ce que 300 à 400 black blocs dans une société où existe le fichage, la reconnaissance faciale, les écoutes téléphoniques, les drones, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à arrêter et à neutraliser 300 à 400 black blocs? Parce qu'ils servent à criminaliser l'explosion du mouvement social, les gilets jaunes et les adversaires du gouvernement français dans le Covid.
Tout à fait. Monsieur Dortiguier, depuis les 12 derniers mois, on pouvait dire plus ou moins que la crise sanitaire venait en aide du gouvernement pour étouffer les contestations à travers le pays. Mais maintenant, oui, malgré les restrictions, les contestations reprennent.
Oui, en effet, monsieur, c'est tout à fait vrai. Chacun le sent, vous avez ici. Je me permets de reprendre pour appuyer ce que dit monsieur Michel sur l'instrumentalisation de ces black blocs, évidemment, qui sont, comme on dit, des gens pourtant qu'il faut être fichés, etc., qui sont instrumentalisés, je répète le mot, instrumentalisés, justement, pour pouvoir, présenter ensuite toute manifestation légitime comme étant quelque chose de caractère terroriste, voyez-vous, de pure violence, etc. C'est un jeu dangereux, un jeu bas, et bien sûr, l'argument sanitaire a été, disons, une façon de museler, sans vouloir faire un jeu de un jeu sur le masque que l'on porte et ensuite ce muselage. Mais enfin, c'est certain que c'est une manière d'asservir, j'entends psychologiquement, voyez-vous, l'ensemble de la population. Je vois des gens qui viennent ici travailler chez moi, par exemple, des artisans, je les sens craintifs même de la maladie. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout, disons, donné la parole dans ce domaine-là à des médecins compétents. Il s'en est présenté. Monsieur Michel a bien parlé de Dr Perron, par exemple, qui apprécie beaucoup. Je suis tout à fait d'accord sur ce qu'il dit sur Monsieur Raoult. Mais enfin, disons, nous avons d'autres personnalités très importantes qui avaient des positions, disons, mesurées, des positions, disons, qui permettaient, disons, de dédramatiser cette épidémie. Et au contraire, c'est la peur que l'on a augmentée, disons, dans la population. La crainte, en réalité, c'est une crainte, la même crainte que celle que autrefois au 19e siècle ou au 18e siècle, etc., on présentait les gouvernements en place qui avaient des tendances tyranniques et ils utilisaient les forces, la force de leur gendarmerie ou la force de leurs troupes. Eh bien, on peut dire que la gestion, en tout cas, de cette épidémie va dans ce sens. Je reprends le projet de loi qui a été présenté hier après-midi à l'Assemblée nationale, qui a été enregistré, qui était présenté par M. Castex. Eh bien, évidemment, ce sont des mesures tout à fait arbitraires d'internement, d'empêchement de circulation, etc., et qui n'ont rien de commun, qui n'ont aucun rapport avec des soins que l'on pourrait apporter. Mais tandis que là, disons que le politique a dramatisé la situation sanitaire pour s'en servir, et je ne vois rien d'autre que de dire qu'aucune conclusion ou jugement apporté, sauf qu'il s'agit là, disons, d'un mode de dictature qui, à mon sens, n'a pas été improvisé, mais a certainement, disons, été conçu dans des sortes de laboratoires psychologiques, voyez-vous, que l'on appelle, qui méritent seuls le nom de sciences politiques. Mais ce sont en réalité des laboratoires de manipulation, voyez, et je dois dire que c'est un phénomène mondial, c'est vrai, oui, c'est vrai. J'en entends parler en Asie, par exemple, encore en Thaïlande, mais partout. Mais je veux dire qu'en France, il y a toujours une tradition de lutte des classes, si vous voulez, très forte, et qu'on n'arrive pas à des compromis. C'est-à-dire qu'on fait céder, en général, le peuple doit céder devant une certaine bourgeoisie, disons, qui est intraitable, voyez-vous, et qui est mesquine, et évidemment qui produit ce qu'on appelle le pays des révolutions. C'était cet éclat.
D'accord.
Et je crois que nous allons vers des troubles très très forts, à commencer par ce mois de janvier.
Tout à fait. Monsieur Luc Michel, est-ce que le gouvernement a su user de cette catastrophe sanitaire pour étouffer les contestations?
Écoutez, je suis d'accord avec le professeur d'Ortiguet. Moi, je suis depuis des années le recul des libertés publiques dans tout l'Occident, qui a commencé au lendemain du 11 septembre avec le Patriot Act aux États-Unis. Oui. Et ce recul des libertés, il a un pilier qui est la militarisation des forces de police et de sécurité. C'est à ça que nous assistons. Mais à cela s'est ajoutée la panique du système face à des gens qui sont incapables. Il y a eu, face au coronavirus, il y a eu un régime qui s'en est bien sorti, c'est la Chine. Vous savez qu'aujourd'hui, à Wuhan, on fait du tourisme. Les Chinois ont déployé l'armée. C'est un régime autoritaire qui est beaucoup plus efficace que nos démocraties. En Belgique, par exemple, qui est un État fédéral jusqu'à l'absurde, la santé dépend de 8 ministres, imaginez-vous. C'est pour ça que la Belgique a, après les États-Unis et le Brésil, le plus haut taux de mort au monde. Nous avons 16 000 morts pour moins de 11 millions d'habitants, contre 30 000 morts pour 85 millions de Français. Voilà la comparaison. Et donc, plus ce régime occidental, qui n'a pas su faire ce que les Chinois ont fait, plus ils ont perdu pied, ils ont menti, ils ont perdu pied, ils ont menti sur les masques, ils ont masqué sur les tests, ils ont manqué sur les confinements, ils ont manqué sur la fermeture des frontières. À partir de ce moment-là, la tendance a été la fuite en avant, c'est-à-dire que plus ces gens sont isolés dans l'opinion publique, plus ces gens qu'on appelle nos gouvernants mais qui n'ont pas gouverné ici, plus ces gens ont fait des erreurs et sont incapables de résoudre la crise, eh bien plus ces gens donnent dans la répression, et comme ils ont peur, ils renforcent l'arsenal sécuritaire policiers, etc. Il y a des lois qui n'auraient jamais passé et qui passent actuellement, des lois de surveillance, des lois d'arrestation arbitraire, etc. On est en train de sortir du cadre de ce qu'était la démocratie. On a notamment mis en cause le droit de manifester, le droit de s'associer, le droit de se réunir, qui étaient les fondements du combat précisément ouvrier du 19e siècle. Et on en revient un peu à la situation. Vous savez que la bourgeoisie française ou la bourgeoisie belge, pendant tout le 19e siècle, elle a fait tirer sur le peuple. En Belgique, il y a eu des grandes révoltes républicaines contre la monarchie à partir de 1840. Elles ont été écrasées par la mitraille, le canon, par des milices bourgeoises, parce que ça fonctionnait comme ça à l'époque. En France, on a connu 1830, 1848, on a surtout connu la guerre civile où les Versaillais, c'est-à-dire la bourgeoisie française, a écrasé dans le sang les Parisiens de la seconde commune de Paris. C'est tout cela qu'on pensait oublier et oui, qu'on voit à pas feutré, à pas de loup, on voit ces gens revenir.
Monsieur Luc Michel, tout de même, ce mode de vie équitable exigé par les Gilets jaunes, par exemple, est devenu de plus en plus compliqué d'après ce que vous dites, n'est-ce pas?
Mais écoutez, nous étions déjà dans une société égalitaire. Et cette inégalité, elle venait du fait que ce qu'on appelle la globalisation, c'est la globalisation américaine. C'est-à-dire qu'on a essayé d'imposer au monde le modèle social anglo-saxon contre le modèle social français, belge ou allemand, qui est celui de la solidarité, de la sécurité sociale, etc. Des millions d'Américains n'ont pas de sécurité sociale, ne reçoivent pas de soins, ne savent pas se payer des dentistes. Macron a été précisément, il est le choix d'une série de réseaux américains pour liquider ce modèle social. Et puis est arrivée ici la pandémie, et la pandémie, évidemment, elle a révélé, elle a aggravé toutes les tares de la globalisation. Maintenant, les maîtres du monde, comme on les appelle, ils doivent réfléchir à pérenniser leur système. Il y a notamment des projets de capitalisme vert qui ne sont qu'un nouvel ordre mondial. Et derrière tout cela, évidemment, il y a une misère sociale qui s'est installée. La misère sociale, c'est tout. Elle commence par la destruction des classes moyennes. Ce qu'on assiste, les petits commerçants, les restaurateurs, les artistes, etc., c'est les classes moyennes. Paradoxalement, les classes populaires, elles ont été relativement protégées parce qu'elles étaient déjà sous perfusion de l'assistanat social. En Belgique, quels sont les gens qui passent à travers de la crise dans des conditions difficiles mais qui survivent? Ce sont les ouvriers, les employés. Quels sont les gens qui sont en train littéralement de crever debout? Et ça se passe comment exactement à Bruxelles ou en Wallonie, comme ça se passe en France, ce sont justement les indépendants, les classes moyennes, etc. Toutes ces sociétés, tous ces gens qui faisaient avancer l'État et qui, par leurs États, par leurs impôts, permettaient précisément la couverture sociale. Ça, oui, on n'arrivera pas à y revenir. Et donc, le mécontentement social, il y a une bombe qui va exploser à la fin de la pandémie.
Monsieur Dortiguier, est-ce que cette bombe va exploser?
Oui, en effet, c'est fatal. Elle ne peut qu'exploser. Car cette destruction de la classe moyenne qui permettait justement aussi l'entretien, bien sûr, de couches populaires qui étaient beaucoup plus dans un état beaucoup plus pauvre, etc., qui permettait donc quand même de donner une certaine santé à la population, eh bien cet écrasement, va entraîner un étonnement, car jusqu'à présent, nous subissons, mais les Français, par exemple, les Belges, ne se rendent pas peut-être compte de l'ensemble, de la totalité des dégâts. Vous voyez ? Et je pense que lorsque cette totalité apparaîtra, alors là, oui, nous aurons véritablement des révoltes, je dirais des révoltes populaires, des révoltes spontanées. Ça n'aura rien à voir avec ces bad blocs ou autres, voyez-vous. Ceux-là seront balayés. Et je crains malheureusement qu'il y ait, disons, des phénomènes, je suppose qu'il y aura des phénomènes anarchiques, voyez-vous, des règlements de compte même, voyez. Et je pense que c'est malheureusement cette année que cela se produira. Et il faut, je pense en tout cas, je relève ce que dit Michel, que nos dirigeants, qui sont des young leaders, vous savez, qui ont été formés à cette utopie américaine, anglo-saxonne, évidemment, sont tout à fait, comment on dit, comme en schizophrénie, en maladie mentale, vous savez, ils sont tout à fait en dehors de la réalité. C'est parce qu'ils vivent justement dans ce cocon, dans ce laboratoire américain, voyez-vous, américanisé, comme on dit. C'est Baudelaire, même, en fait, cette expression au 19e siècle, pour dire que la France était s'américanisait de plus en plus, vous voyez. Elle confond le physique et le moral.
Monsieur Dortillier.
Eh bien, je crois que c'est ce que nous voyons. Et bien sûr, il y aura une réaction vive, violente. Et malheureusement, je crois qu'il ne faut pas attendre longtemps avant de s'en rendre compte. Je pense même, voyez-vous, je le sens moi-même autour de moi, que cela pourrait se produire, commencer de se produire même au mois de janvier.
Monsieur Dortillier, parlant de réaction du peuple, est-ce que le peuple français a compris ce piège que vous faites allusion?
Oui, il le comprend, je dirais, lentement. Il le comprend lentement. Je crois que ce qui va lui ouvrir les yeux, ça sera justement la prolongation de cet état de confinement avec ces arrestations, cet empêchement, disons, de circulation, voyez-vous, cette emprise de police sanitaire, voyez-vous, qui ressemble un peu, bon, je dirais, en toute polémique, un peu une sorte de bolchevisme, si vous voulez, oui, mais enfin, le bolchevisme s'est écroulé devant la nation russe, et malheureusement, nous avons des gens qui sont impitoyables, et je crois qu'il y aura certainement, disons, des réactions violentes de la part du peuple. Vous savez, le français est quelqu'un qui un peu soumis, à mon avis, par rapport aux Germains, par exemple, trop soumis, pas assez indépendant, mais quand il se réveille, à ce moment-là, il se réveille d'une façon, disons, parfois débordante, voyez-vous, mais qui est tout à fait compréhensible. C'est parce que le peuple ici est abusé.
Eh bien, M. Pierre Dortillier, politologue depuis Toulouse, merci infiniment d'avoir apporté des précisions à cette émission. Un grand bonjour à M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, d'avoir participé à cette émission. Eh bien, merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Sanctions américaines. L'Iran n'est pas à genoux. En se retirant de l'accord nucléaire signé en 2015, les États-Unis d'Amérique ont renversé la table dans l'espoir de pouvoir arracher des concessions de l'Iran. Ils ont cru que la politique de pression maximale caractérisé par plus de 5000 cas différents de sanctions frappant la totalité des secteurs économiques, commerciaux, énergétiques, sanitaires, sociaux, industriels, juridiques, militaires, médicamentaux, aviatiques, etc. de l'Iran finirait par fléchir ce pays. Signe qu'ils ne savaient et ne savent toujours pas de quel bois les Iraniens sont faits. 4 ans de sanctions ultra-draconiennes n'ont débouché sur l'effondrement de l'économie iranienne ni sur l'hyperinflation, puisque l'économie iranienne, au contraire des économies sionisées et capitalistes de l'Occident, se protège, produit et consomme dans un cercle sain et à l'abri des atteintes, des chantages des milieux financiers. La dette extérieure iranienne, qui s'élevait à plus de 8 milliards de dollars à la fin juin 2019, enregistre une baisse de 7% cette année par rapport au mois de mars 2019, selon les chiffres officiels publiés par la Banque centrale iranienne. N'est-ce pas là une magistrale démonstration de force iranienne? Et dire que les 4 ans de folles sanctions US ont débouché sur la définition par l'Iran d'un nouveau mécanisme anti-sanctions qui fait des émules jusqu'aux Caraïbes, où le Venezuela commence à voir le bout du tunnel avec l'aide de l'Iran. L'économiste Xavier Dupré décortique ce miracle iranien. Les sanctions économiques appartiennent, comme chacun le sait, à la panoplie bien connue de l'arsenal de répression des États-Unis. L'Iran, depuis 2018, est à nouveau la victime de cette stratégie de la pression économique déployée à des fins politiques. Cette analyse visera à restituer les effets réels des sanctions américaines sur l'économie iranienne. Ce repérage tiendra évidemment compte du contexte de pandémie dans lequel le monde se débat pour l'heure. La pandémie de COVID-19 a particulièrement frappé l'Iran. L'Iran appartient au top 6 mondial des pays les plus touchés par le virus, avec en date du 11 décembre 2020, 1 092 400 cas, dont 787 850 guérisons, et plus de 51 000 décès. Vu l'ampleur de l'épidémie, on pourrait s'attendre à ce que les sanctions imposées, unilatéralement et aux grandes dames de la communauté internationale par les États-Unis, aient exercé un effet particulièrement destructeur sur l'économie de l'Iran. On peut, chiffre à l'appui, estimer qu'il n'en est rien. Bien sûr, les sanctions US ont frappé durement en empêchant Téhéran d'exporter son pétrole. Or, l'or noir représente la principale source de devises du pays. En 2017, alors que les États-Unis continuaient à respecter les termes de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, les hydrocarbures, gaz inclus, représentaient plus de 70% des recettes d'exportation du pays. À l'époque, la filière des hydrocarbures avait rapporté à l'Iran plus de 40 milliards de dollars. 2 ans après le retrait des accords par Washington, on peut estimer que l'administration Trump a raté sa cible. L'Iran n'est pas à genoux. Lorsqu'un pays qui importait en 2018 pour 40 milliards de dollars en tête de ses importations retrouve des produits alimentaires pour un montant de 4 milliards de dollars, se voit privé de son importante manne pétrolière, on peut s'attendre à ce qu'un phénomène d'hyperinflation éclate. Pour rappel, il y a hyperinflation lorsque l'inflation mensuelle dans un pays est égale ou supérieure à 50%, et ce, durant au moins un mois. L'Iran n'est pas, loin s'en faut, entré dans une période de ce type. Si l'Iran avait été débordé par une vague hyperinflationniste, il en aurait résulté une rude épreuve pour le pays. Classiquement, lorsqu'un pays est victime d'un épisode d'hyperinflation, il s'ensuit une dollarisation de facto de son économie et donc une plus grande dépendance à l'égard du billet vert. De ce point de vue, on peut dire que le déclenchement d'une vague d'hyperinflation était le but recherché par Washington à travers les sanctions contre l'Iran. C'est un cuisant échec puisque le rial ne s'est déprécié en 2 ans que de 20% face au dollar. C'est une chute évidemment importante, mais elle n'est pas de nature à déchaîner les forces destructrices de l'hyperinflation. Pour s'en convaincre, on scrutera l'évolution de l'inflation en Iran. De novembre 2019 à novembre 2020, le taux d'inflation annuel qui a prévalu en Iran a été, selon le Statistical Center of Iran, de 29%. La Banque mondiale, dont la proximité avec les États-Unis est bien connue, ne pointe pas non plus de dérapage hyperinflationniste en Iran. Selon la Banque mondiale, le taux d'inflation au cours de l'année 2019 y a été de 41%. l'Iran n'est donc pas devenu le Venezuela du Moyen-Orient, contrairement à ce qu'espérait à haute voix l'opposition iranienne soutenue par les États-Unis. Dans ces conditions, la cible des autorités monétaires iraniennes d'un taux d'inflation de 22% en base annuelle à la fin du premier trimestre 2021 s'avère une ambition raisonnable et crédible. De surcroît, cet objectif de politique monétaire est clairement renforcé par la perspective de voir les États-Unis, suite à l'élection de Joe Biden, revenir aux accords sur le nucléaire iranien et par là même abandonner la politique de sanctions de l'administration Trump. Les États-Unis seraient obligés tôt ou tard de retourner aux accords sur le nucléaire iranien. La prochaine fois, nous vous parlerons des conséquences économiques de ce retour des États-Unis dans le cadre de ces accords.